samedi 1er avril.
De 13h30 à 15h30.
C'est la radio des intercu.
Sur Transistor.
Merci beaucoup Marie pour cette revue de presse.
J'essaie d'apporter un peu de variété.
Mais c'est bien, et puis il faut creuser tous ces articles de fond dans des journaux qu'on ne lit sans doute pas assez. Et il faut dire que la dépêche du midi me manquait un petit peu sous le Mossad ciel lyonnais, ça fait du bien d'en entendre parler de nouveau. Et on enchaîne immédiatement avec toi Robin pour ton billet économique. Bonjour Robin.
Oui, bonjour Rémi. Alors, intercu oblige, j'ai eu envie de vous parler un peu de culture, et comme d'habitude, c'est un chiffre qui a retenu mon attention. 45 jours, c'est la nouvelle durée qu'envisagent plusieurs géants d'Hollywood entre la sortie d'un film en salle et sa disponibilité en vidéo. Avant-hier se terminait le CinemaCon, un grand rassemblement des propriétaires de salles de cinéma du monde entier au César Palace de Las Vegas. Les 4 jours de rencontres ont été marqués par quelques tensions puisque plusieurs grands producteurs d'Hollywood ont voulu, comme je le disais, renégocier les clauses de convention entre les distributeurs américains pour abaisser le délai minimum entre la projection d'un film dans les salles et sa disponibilité à la maison. Ils veulent donc l'abaisser à 45 jours, alors qu'aujourd'hui, les accords supposent une période d'une centaine de jours aux États-Unis, soit un peu plus de 3 mois. En France, ce délai est inscrit dans la loi, et un peu plus élevé, environ 4 mois. Donc avant d'expliquer pourquoi Hollywood veut autant baisser ce délai, je pense qu'il faut d'abord se demander pourquoi ce délai existe. Donc à votre avis, qu'est-ce qui justifie cette période entre la projection et le DVD ?
L'argent.
Précisément, oui, enfin, il y a deux manières de voir les choses, en fait. Soit le point de vue de ceux qui font les films, soit celui de ceux qui voient les films. Donc, faisons d'abord le point de vue de ceux qui font les films et via un petit tour du côté de l'histoire de l'industrie du cinéma. À partir des années 30, s'est développé aux États-Unis de grandes compagnies qui s'occupaient à la fois de la production et de la distribution des films. C'est ce qu'on appelle le studio system. En 1948, le Congrès américain a mis fin à ce système en passant un décret qui interdisait des conglomérats entre distribution et production. Donc, se sont donc ouvertes des négociations entre des deux branches désormais distinctes. Donc voilà, les producteurs, eux, voulaient que les films soient diffusés en salle parce que c'est une plateforme de visibilité, un média de diffusion supplémentaire, mais ils voulaient qu'ils soient aussi diffusés quasiment en même temps en vidéo pour augmenter leurs ventes. Les majors de la distribution, du coup, ceux qui s'occupent des salles, préféraient que le film soit diffusé uniquement dans les salles, avoir un monopole, pour avoir toutes les distributions et gagner plus de sous, effectivement. Comme les studios systèmes précédents se sont rapatriés sur la distribution plus rentable, les majors de la distribution étaient très concentrés et avaient donc plus de pouvoir. Et donc, si des accords ne leur plaisaient pas, elles pouvaient décider de ne pas diffuser du tout les films en représailles, ce que craignent les producteurs, et c'est ce qui a expliqué ce long délai entre la projection en salle et le DVD.
D'accord, et alors du coup, du point de vue du consommateur, qu'est-ce qui se passe ?
Du point de vue du consommateur, on peut dresser une autre explication. Le décalage entre la diffusion en salle et la disponibilité en vidéo est une garantie d'information pour le consommateur. Je m'explique un peu. Un film, c'est ce qu'on appelle en économie un bien d'expérience. Un bien d'expérience est un bien dont on ne peut pas connaître l'utilité, autrement dit le bien-être qu'il nous procure, si on ne le consomme pas. Et donc si on ne l'achète pas. Avant d'aller voir un film, par exemple, on ne peut pas être sûr qu'il va nous plaire et donc si la dépense valait la peine. La projection en salle permet peut-être de contourner ce problème. D'abord, on peut dire qu'un billet de cinéma, c'est moins cher qu'un DVD, donc on a moins à perdre si on va au cinéma avant d'acheter le DVD. Bon, c'est pas hyper convaincant. Une autre explication serait de dire que la projection en salle permet de pallier en partie le manque d'informations inhérent à ces biens d'expérience. En effet, en exposant le film en salle à la critique et aux spectateurs, donc qui sont les plus motivés, elle laisse de l'espace à ce qu'on appelle la conversation culturelle. Et donc ce jeu de la critique et de l'évaluation par les spectateurs permet d'avoir une vague idée pour le consommateur qui les voit, de savoir si un film vaut le coup d'être allé vu ou pas. Le consommateur reçoit des informations par ce biais. Et de l'information est aussi reçue par les producteurs, puisqu'ils peuvent avoir une idée du succès du film, et donc de savoir combien de DVD ou combien de vidéos ils vont éditer, et donc de leur vendre prévisible, et donc de ne pas éditer trop ou trop peu de vidéos.
Mais tout ça, c'est du passé, parce que, une fois de plus, la révolution numérique débarque et change tout.
Et oui, la fameuse révolution numérique, elle est toujours là, et c'est le célèbre Netflix, cette fois, qui vient perturber l'industrie du cinéma. La vidéo à la demande en ligne rend des justifications de la diffusion en salle assez caduques. D'abord, un billet de cinéma coûte plus cher que la location ou l'achat en ligne d'un film. Du coup, on n'a pas vraiment intérêt à aller au cinéma avant pour nous faire une idée. Ensuite, surtout, ce qu'on appelle le coût marginal de production d'un film en ligne, c'est-à-dire le coût pour produire un exemplaire en plus, est quasiment nul. C'est-à-dire que vendre 2 ou 17 millions de films sur Internet, c'est la même chose, ça a le même coût pour le producteur, donc il n'a pas besoin de s'adapter aux prévisions d'achat des consommateurs.
Ok, alors ça c'est vrai pour iTunes, etc., mais c'est pas propre à Netflix finalement.
Oui, et Netflix là-dedans, en fait, il arrive à créer encore plus de tensions. En devenant en fait une énorme entité en termes d'abonnés, il amène les producteurs à envisager sérieusement d'autres médias de diffusion que les salles de cinéma. Et puis surtout, Netflix rebat un peu les cartes entre production et distribution. Et notamment puisqu'il s'est mis depuis 2 ans environ à produire des contenus originaux qui sont ensuite diffusés directement sur leur plateforme. Par exemple, un film avec Will Smith est en cours de production, il sera diffusé en même temps dans les salles et en même temps sur Internet. Et donc cette année, c'est pas moins de 70 produits originaux qui ont été produits par Netflix. Et d'ailleurs, la compagnie offre des salaires et des conditions de travail particulièrement intéressantes, ce qui fait qu'ils arrivent à récupérer beaucoup de grands artistes et de plus en plus de noms de plus en plus importants.
Mais d'un autre côté, avec sa grande diversité, Netflix risque de noyer un peu la fameuse conversation culturelle. Non, enfin, on ne sait plus trop ce qui vaut la peine d'être regardé.
Eh oui, mais c'est aussi là-dessus que Netflix innove, parce que avant, la conversation culturelle servait à ce que les consommateurs se repèrent lui-même dans l'offre, en lisant les journaux, et sélectionnent ce qui est le mieux pour lui. Netflix renverse cette perspective. La compagnie pense que tous les consommateurs sont différents et qu'il est nécessaire de faire du marketing à la personne, au niveau individuel. En termes économiques, on passe de ce qu'on appelle une discrimination au premier degré, où on discrimine des groupes, à une discrimination parfaite au second degré, c'est-à-dire qu'on propose à chaque consommateur un produit unique, en gros. Donc c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui avec le big data notamment. Netflix arrive à proposer à chacun ce qui est le plus susceptible d'aimer avant même que le consommateur n'ait lui-même à chercher l'information. Donc en gros, Netflix fait ce travail d'apport d'information qu'a donné la conversation culturelle, alors qu'auparavant, c'était le consommateur lui-même qui devait le faire.
D'accord. Alors, mais quel est le rapport avec la réduction de la diffusion seulement dans les salles de cinéma ?
Oui, bah j'y viens. En fait, si ce temps ne baisse pas, Netflix risque de profiter d'une niche et d'augmenter encore sa taille. S'il est le seul à distribuer les films hors salle, juste à leur sortie, il risque de gagner des spectateurs, notamment en tant que producteur. Donc les distributeurs classiques américains n'ont pas trop le choix, ils vont probablement accepter les nouvelles conditions de la négociation. En France, la situation est un peu différente puisque l'antériorité des salles est inscrite dans la loi et ce n'est pas des conventions entre les entreprises. Et ça sert aussi à protéger des petites salles indépendantes ou même des distributeurs de taille moyenne comme notre partenaire à Transistor, les Cinémas Lumière de Lyon. Mais ce que nous dit a priori l'économie, ça va être ma conclusion, c'est que ce serait dans l'intérêt du consommateur en fait de voir ce temps baisser. Sauf que tout ne se résume pas à l'économie, je pense que vous êtes d'accord. Et alors je vous pose la question à vous autour de la table, pour ou contre la baisse du délai entre la projection en salle et la disponibilité en vidéo ?
Moitié-moitié.
Moitié-moitié.
Excellente question. Personnellement, je continue à aller voir les films en salle, hein. Je suis désolé.
C'est un petit plaisir, on va...
Faut vivre avec son temps, mais j'ai un peu de mal parfois.